France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'édile, l'idylle et la trahison. Le 26 août 2022, Mediapart publie une enquête qui fait l'effet d'une bombe à Saint-Étienne. On y apprend que le maire Les Républicains de la ville, Gaël Perdriau, fait chanter depuis 8 ans son premier adjoint, le centriste Gilles Artigues. L'instrument du délit, une sextape, autrement dit une vidéo enregistrée à son insu, où il apparaît en compagnie d'un escort gay dans une chambre d'hôtel. Derrière ce piège, 4 hommes sont à la manœuvre. Le maire, Gaël Perdriau donc, mais aussi son directeur de cabinet, Pierre Gauthiéry, et un couple d'intrigants, un jeune élu municipal aux allures de gendre idéal et son excentrique compagnon, deux ambitieux prêts à s'affranchir de la morale pour se rapprocher du pouvoir. Depuis l'été 2022, les révélations s'accumulent sur le climat délétère qui règne au sein de la mairie de Saint-Étienne. Dans l'attente d'un procès, le maire et ses acolytes sont aujourd'hui mis en examen pour chantage, association de malfaiteurs et détournement de fonds publics. Malgré tout, Gaël Perdriau refuse de démissionner et s'accroche à son poste, quelque part entre le mauvais polar et un film des frères Cohen. Notre invité aujourd'hui, Antione Rouget, journaliste au sein du pôle enquête de Mediapart, c'est lui qui a révélé l'affaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Jean Brossier, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
J'ai un projet personnel.
Gilles Artigues semble avoir renoncé à sa carrière politique.
Mai 2022. Dans la salle de presse de la mairie de Saint-Étienne, l'élu municipal Gilles Artigues prononce une petite allocution devant les micros épars de journalistes de la presse locale. La cinquantaine, le visage rond, l'air bonhomme, l'homme politique est bien connu des Stéphanois. Député de 2002 à 2007, il est le premier adjoint du maire depuis bientôt 10 ans. Mais ce matin-là, devant les journalistes incrédules, il annonce qu'il démissionne de son poste pour se concentrer sur un projet professionnel sur lequel, malgré les relances des journalistes, il reste très vague.
J'ai un projet personnel que je garde pour moi pour l'instant. Et il faut d'ailleurs que j'ai un peu de temps pour le construire. Mais vous savez, je crois que dans notre conseil municipal, il doit y avoir à peu près les trois quarts des élus qui ont d'autres activités. Donc c'est tout à fait envisageable.
À la rédaction du journal régional Le Progrès, on trouvait déjà bizarre que Gilles Artigues renonce à une candidature aux élections législatives de 2022 après s'être présenté aux 4 scrutins précédents. Et bien voilà maintenant que ce poids lourd de la vie politique locale décide d'abandonner toute ambition au sein de la mairie, gardant seulement en charge l'état civil et les cimetières. Un véritable harakiri politique, et avec le sourire en plus. Aux journalistes qui l'interrogent sur d'éventuelles pressions, Gilles Artigues martèle « Je n'ai pas été contraint. J'ai démissionné tout à fait volontairement, s'estimant par ailleurs en phase avec le maire, Gaël Perdriau. Dont acte. » Mais les journalistes ne sont pas les seuls à avoir des doutes. Depuis quelques années, la femme et les enfants de Gilles Artigues trouvent son comportement préoccupant. En famille, il est souvent aux abonnés absents, renfermé sur lui-même. Et lorsqu'on lui parle de son travail à la mairie, il tombe dans une sorte de léthargie, le regard perdu dans le vague. Cherchant à élucider les causes de ce mal-être, son épouse n'obtient que des réponses évasives, comme elle le raconte plus tard à France 2.
Je lui ai demandé, mais Gilles, dis-moi ce qui va pas. Je vois bien que tu n'es pas bien. La nuit, je me réveillais, il n'était pas à côté de moi. Il traînait par la maison, il était mal. Mais il me disait, j'ai du travail, c'est trop compliqué. Mais je ne suis pas arrivée à lui faire dire les choses.
On pouvait passer un super bon moment en famille et d'un coup, il recevait un message de Gaël Perdriau. Peu importe ce qu'il lui disait, il lui disait quelque chose sur le travail ou directement, on voyait que ça le plongeait dans une bulle où il allait pendant un moment plus être réceptif à ce qu'on pourrait lui dire, à penser à ce qui lui arrive et tout.
À chaque fois, je disais, mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe dans cette mairie pour que Gilles soit dans cet état ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
La réalité, c'est qu'un secret inavouable ronge Gilles Artigues depuis bientôt 10 ans. Tout a commencé en 2008. Cette année-là, il est candidat du MoDem aux élections municipales de Saint-Étienne. Arrivé en troisième position au premier tour, il choisit malgré tout de maintenir sa candidature au second. Une décision qui prive le maire de droite sortant de précieux renforts de voix et qui permet une victoire surprise des socialistes. À cette époque, Gaël Perdriau, lui, est un jeune conseiller municipal de droite. Entré en 95, à seulement 22 ans, cet ex-commercial chez EDF est profondément marqué par la défaite inattendue de son camp. Et il en garde une rancune tenace contre Gilles Artigues. Mais qu'à cela ne tienne, Gaël Perdriau prépare la suite. Il prend du galon au sein de l'UMP, se rapprochant notamment de Jean-François Copé, qui devient président du parti. Aussi, lorsqu'arrivent les municipales de 2014, Perdriau s'impose comme le candidat naturel de la droite pour tenter de reconquérir Saint-Étienne. Et cette fois, hors de question de revivre le scénario de 2008. Un accord est donc conclu entre l'UMP et les centristes. Gilles Artigues soutiendra la candidature de Perdriau en échange du poste de premier adjoint. Le 16 mars 2014, l'alliance porte ses fruits. La liste d'union remporte une large victoire.
20 heures devant la permanence de Gaël Perdriau, les militants laissent éclater leur joie. Saint-Étienne bascule à droite sur un score moins serré que prévu, 47,7% pour la liste UDI-UMP. 7 points d'avance sur le sortant et le fauteuil de maire.
Cette victoire, c'est votre victoire! Merci à tous les Stéphanois. Merci à ceux qui, très majoritairement, avec un score sans appel, nous ont fait confiance pour relever Saint-Étienne. Et allez Saint-Étienne !
Ce soir-là, filmé aux côtés de Gaël Perdriau, Gilles Artigues laisse éclater sa joie. Et c'est l'idylle entre les deux. Et d'ailleurs, il a de quoi se réjouir, Gilles Artigues. Bon, il a dû manger son chapeau en renonçant à ses propres ambitions municipales, mais il va être un puissant premier adjoint. En échange de son retrait, il a négocié la présence de 12 de ses proches sur la liste d'union. Autrement dit, rien ne pourra se faire pendant le mandat de Perdriau sans qu'il ait son mot à dire. Et il y a tant à faire. En ce printemps 2014, Saint-Étienne est une ville en crise, frappée par la désertion de l'industrie et le chômage de masse. Le centre-ville est délabré, le taux de pauvreté y atteint 22%, bien au-dessus de la moyenne nationale. Face à l'ampleur de la tâche, le premier adjoint espère travailler en bonne entente avec le maire pour sortir la ville de l'ornière. Seulement, c'est mal connaître Gaël Perdriau, qui n'éprouve que méfiance et jalousie pour ce Gilles Artigues, plus expérimenté que lui. Un comportement encouragé par Pierre Gauthiery, son directeur de cabinet, un homme à la stature imposante qui traîne derrière lui une drôle de réputation. On les dit en effet compétent, travailleur, mais aussi colérique, éruptif, voire insultant, quand on a le malheur de se trouver en travers de son chemin. Gaël Perdriau et Pierre Gauthiery ont un point commun, un goût du pouvoir et de grandes ambitions qu'ils confinent à la folie des grandeurs. Et comme l'explique à France 2 le journaliste Frédéric Massé, dès son élection, Gaël Perdriau songe déjà à ce qui adviendrait de sa mairie s'il était un jour appelé à devenir ministre.
S'il obtient un poste ministériel, il doit quitter les rênes de la ville. Et c'est le premier adjoint qui deviendra maire. Et il ne souhaite absolument pas que Gilles Artigues devienne maire de Saint-Étienne. Parce qu'il sait qu'un poste ministériel, c'est un CDD en puissance. Et quand il reviendra sur Saint-Étienne, il n'est pas sûr que Gilles Artigues lui redonne la place de maire qu'il avait laissée.
Dans les premiers mois de la mandature, Gilles Artigues comprend que le maire et son directeur de cabinet n'ont aucun désir de l'associer à leurs décisions. Pire, il mesure rapidement l'étendue de leur hostilité à son égard. Il me disait constamment que j'étais déloyal, paresseux, incompétent, se souvient-il aujourd'hui. Mais Gilles Artigues est loin de soupçonner jusqu'où les deux hommes sont prêts à aller pour se débarrasser de lui. Car en catimini, Pierre Gauthiery et Gaël Perdriau cherchent un moyen de pression qui permettra de faire chanter Artigues et le neutraliser politiquement. Pour cela, ils associent à leur recherche malveillante un jeune ambitieux, l'adjoint à l'éducation, Samy Kefi-Jérôme. Trentenaire, beau garçon, homosexuel, La précision a son importance ici. En couple avec un homme plus âgé, un certain Gilles Rosary l'Anglais. Attardons-nous sur ce personnage excentrique, Gilles Rosary l'Anglais, qui va devenir le cerveau du complot. Il aime à se décrire comme un aventurier. Il est vrai que l'homme a eu mille vies. Acteur raté, il prétend avoir des dons de voyant. En 2001, il rencontre Samy Café-Jérôme dans un bar à Paris. Et c'est le coup de foudre. Le jeune couple décide de s'installer à Saint-Étienne, où ils tentent tous les deux de faire carrière en politique. Pour Gilles Rosary l'Anglais, ça ne se passe pas très bien. Dans l'antenne locale du Parti Socialiste où il s'inscrit, on se méfie rapidement de lui. C'est un bel enfumeur, un mythomane qui essayait de faire des coups foireux, se souvient aujourd'hui l'ex-député PS Jean-Louis Gagnaire. Et c'est pourtant vers ce personnage, peu fiable, que le maire et son directeur de cabinet se tournent, dans des conditions que l'intéressé détaille bien plus tard sur le plateau de BFM TV.
Pierre Gauthiery, Gaël Perdriau et Samy Café-Jérôme étaient en train de se poser des questions sur comment justement tenir Gilles Artigue le plus rapidement possible. On va dire qu'on avait des élucubrations et à un moment donné, Samy Café-Jérôme, qui à l'époque était mon compagnon, leur a dit « Mais vous savez, Gilles Rosary l'Anglais sait gérer ce genre d'affaires. Par le passé, il l'a déjà fait. » Une heure et demie après, deux heures, j'étais dans le bureau du directeur de cabinet et ensuite j'étais avec Gaël Perdriau et le directeur de cabinet et l'affaire était conclue.
Alors, qu'est-ce qui se dit exactement dans cette réunion, point de départ du complot ? Gilles Rosary l'Anglais commence par convaincre le maire et son directeur de cabinet de renoncer à leur idée initiale, un chantage basé sur une affaire financière. Trop long, trop complexe. À la place, il leur propose une solution simple et amorale, ce qu'il appelle un barbousage de mœurs. Il leur rappelle que Gilles Artigue est une figure emblématique de la communauté catholique locale, dont il épouse toutes les valeurs conservatrices. En 2005, alors député, Artigue s'était indigné à l'Assemblée nationale d'une campagne publicitaire montrant deux hommes en train de s'embrasser. Inacceptable dans l'espace public, martèle-t-il. Plus tard, en 2012, il s'oppose publiquement au mariage pour tous. Pour Rosary l'Anglais, ses prises de position publiques sont en totale contradiction avec ce qu'il sait de Gilles Artigue, comprenait de sa vie intime.
Il y avait des rumeurs sur la vie privée ou en tout cas sur certaines tendances de Gilles Artigue qui ont été confirmées parce que Samy Café-Jérôme était dans le même parti que Gilles Artigue et nous avons pu avoir les confirmations et je leur ai dit tout simplement, vu que sa force de frappe, sa force politique est basée sur l'électorat catholique traditionnel, il fallait faire un compromat, il fallait faire une vidéo de mœurs intime.
Compromat, le mot est lâché. Il veut dire dossier compromettant. Méthode utilisée en Russie pour mettre quelqu'un dans de sales draps. Une cabale, quoi. Reste à mettre le complot en scène. Justement, une occasion propice se présente, début 2015, lorsque Samy Café-Jérôme et Gilles Artigue se rendent à Paris pour une réunion de travail. Loin de Saint-Étienne, les conspirateurs estiment que le premier adjoint baissera la garde. Bien vu, ce soir-là, Gilles Artigue ne se méfie pas quand Samy Café-Jérôme l'invite à le rejoindre dans sa chambre d'hôtel pour prendre l'apéritif avec l'un de ses amis, un certain Théo, qui est en réalité un escorte gay, dont les services ont été réservés sur Internet. Mais cela, Gilles Artigue ne doit pas le savoir, évidemment. Payé 300 euros cash pour un massage érotique d'une heure et demie, Théo est spécialement briefé pour dissimuler son statut d'escorte à son client. Une fois Gilles Artigue dans la chambre d'hôtel, Samy Café-Jérôme crée les conditions du piège. Il fait la conversation, sert du champagne, met de la musique, tamise la lumière, avant de s'éclipser discrètement, laissant les deux hommes ensemble. Ces derniers passent la soirée tous les deux, sans savoir qu'ils sont filmés à leur insu par une caméra, dissimulée dans la chambre. Une petite GoPro, prêtée gracieusement par le cabinet du maire, mais que Samy Café-Jérôme a oublié de recharger. L'appareil s'éteint donc au bout de 30 minutes. Patatras.
Enfin, la laisse. Une fois que la vidéo est tournée...
De toute façon, nos barbous amateurs craignent que le film ne soit pas suffisamment compromettant. Alors, À partir des images, il réalise un petit montage qui prend la forme d'une bande-annonce de 2 minutes intitulée cruellement « In bed with Gilles Artigue ». Les images du massage érotique y sont mises en miroir avec les engagements catholiques de l'élu. Et la bande-annonce laisse croire à l'existence d'une version longue encore plus explicite. Pendant 18 mois, Gilles Artigue ne se doute de rien. Jusqu'au 18 septembre 2016, lorsque Samy Kéfé-Jérôme l'invite chez lui pour lui présenter la vidéo. « Vous vous êtes fait piéger », lui lance-t-il, vengeur. S'il veut éviter la diffusion de ces images, qu'il qualifie d'assurance vie politique, il doit renoncer à toute ambition au sein de la mairie. À France 2, Gilles Artigue confirme plus tard avoir eu l'impression que le ciel lui tombait sur la tête.
J'étais totalement désespéré. Enfin, je me souviens être parti dans cette rue et l'idée de me jeter sous le tramway m'a traversé l'esprit. Et je me suis repris, bien sûr. Mais à partir de là, je n'ai cessé de penser à cette vidéo et aux conséquences que pourrait avoir sur ma vie personnelle, avant de penser à ma vie politique, sur ma famille, sur mes amis. Et ça a été le début de mon cauchemar.
Effectivement, le cauchemar de Gilles Artigue ne fait que commencer. Persuadé que Samy Kéfé-Jérôme a agi seul, il a d'abord la naïveté d'aller signaler la situation au maire. Gaël Perdriau l'écoute en silence, sans réagir. Quelques semaines plus tard, après un différend entre les deux en réunion, le maire révèle son jeu. Menaçant, il prévient Gilles Artigue que s'il ose encore une fois s'opposer publiquement à lui, il fera circuler certaines images qu'on lui a fait parvenir. Ambiance. Et là, Gilles Artigue perd pied. Il ne sait pas comment s'extraire du piège. Révéler le chantage à la police, ce serait risquer que sa famille l'apprenne. Rongé par la honte, il envisage alors le suicide. Mais avant de passer à l'acte, il décide d'accumuler des preuves destinées à ses proches. Après sa mort, ils pourront ainsi comprendre le calvaire qu'il a traversé, dit-il. En novembre 2017, il enregistre l'une de ses conversations avec Gaël Perdriau et Pierre Gauthiéry, échange particulièrement révélateur de la violence qui marque les rapports du duo à la tête de Saint-Étienne. On y entend notamment le directeur de cabinet se comporter comme un petit mafieux. Écoutez.
On m'a fait parvenir un film très édifiant qui dure...
Oui, c'est ça. Et ce film, oui, ben justement. Eh ben, utilisez-le, ce film.
Ah, et Gilles, je vous l'ai déjà dit.
Alors là,
si le fait que j'aille en tôle vous fait tomber parce que vous passez pour une vieille pédale sur le retour.
Mais j'en ai pas du tout envie de vous aller en tôle. J'ai dit respectez-moi. Respectez-moi.
Vous avez fait une chose ignoble par rapport à moi pour essayer de me piéger il y a 3 ans. Ça sera le 5 janvier. Hein, ça sera pas 3 ans, le 5 janvier. Ça veut dire que, quand même, vous aviez quand même une intention de préméditation quand même.
Non, c'est faux.
J'ai même vu un avocat sur Paris cette semaine. Il m'a expliqué ce que c'était que le chantage politique. Et la jurisprudence, c'est 2 ans de prison.
Mais une fois que c'est sur les réseaux, c'est plus du chantage. Hein.
Oui, bien sûr.
C'est l'exécution.
Les 2 ans de prison, ça me dérange. Ne vous tentez pas. C'est simplement parce que la vie m'a permis de ne pas mal tourner, que je n'ai pas mal tourné. Mais je fonctionne exactement comme peut fonctionner un criminel. De la même manière. Je n'ai aucune foi, ni voix.
Mais Gilles Artigue ment quand il assure qu'il est prêt à faire circuler la vidéo. Un bluff qui ne fonctionne pas. Alors, désespéré, il se mure dans le silence. Les années passent, il dépérit, acceptant sans broncher les brimades que lui impose le maire en réunion, devant les yeux médusés du reste de l'équipe municipale. Dans les couloirs de la mairie, Gaël Perdriau et Pierre Gauthiéry s'amusent à lui murmurer le prénom de l'escorte pour l'humilier. « Comment va Théo ?» lui demande-t-il en riant. Au printemps 2022, c'est donc un homme brisé qui démissionne de ses fonctions de premier adjoint sous la pression du maire qui, cruel, lui laisse la charge des cimetières. Artigue, on le met à la délégation des cimetières parce qu'il est mort, plaisante-t-il en privé. Et Gaël Perdriau se met à rêver. La rumeur court en effet qu'Emmanuel Macron pourrait le nommer ministre. Enfin débarrassé de son premier adjoint, il se voit déjà à Paris avec voiture et chauffeur l'emmenant à l'Élysée. Il pense aussi à se porter candidat à la présidence de LR, qui pourrait lui servir de marchepied pour devenir un jour président de la République. Mais pris dans sa folie des grandeurs, le maire commet une erreur fatale. Il sous-estime gravement une personne qui pourtant peut faire s'écrouler tout l'édifice et emporter les conspirateurs dans sa chute. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Saint-Étienne, le maire et la sextape.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
Un soir de mars 2022, Gaël Perdriau assiste à une représentation de Candide à la Comédie de Saint-Étienne. Dans les couloirs du théâtre, une figure surgit du passé l'interpelle. Gilles Rosary-Langlais. En 8 ans, l'homme a bien changé. Séparé de sa Mickey Jérôme, il est désormais sans emploi, vit du RSA et souffre de problèmes de santé, diabète et Covid long. Affaibli, il va voir le maire pour lui exprimer toute sa rancœur. Ne lui avait-il pas promis, lui, le maire, et Pierre Gauthiery, de lui offrir un emploi à la mairie en échange de la réalisation du compromat ? « Vous n'avez pas respecté votre part du contrat », martèle-t-il. Et là, Gaël Perdriau panique. Et si Rosary-Langlais révélait tout ? Il demande donc à son directeur de cabinet, Pierre Gauthiery, de le recevoir. L'entretien se déroule 3 semaines plus tard. Un délai un peu long pour une urgence, mais bon. Onctueux, l'air compréhensif, Gauthiery lui propose un poste au sein de la majorité municipale, payé 2 500 € par mois en échange des services rendus. Voilà, ça devrait suffire à le faire taire, pense-t-il. Erreur. Car il est trop tard pour acheter le silence de Gilles Rosary-Langlais, qui a déjà contacté Mediapart et qui porte ce jour-là un micro sur lui, enregistrant les échanges dans le bureau du directeur du cabinet du maire. Comme il le confiera plus tard à un journal local, ils m'ont toujours pris pour un moins que rien qui n'aurait pas l'aplomb de tout révéler. Eh bien, Rosary-Langlais va leur signifier ce qu'il en coûte de l'avoir sous-estimé. D'abord, il indique à Pierre Gauthiery que sa proposition d'emploi ne lui convient pas. Inquiet, le maire, Gaël Perdriau, prend les choses en main et le reçoit à son tour. À nouveau, Gilles Rosary-Langlais enregistre leur conversation, dans laquelle les deux hommes reviennent sur le piège tendu 8 ans plus tôt à Gilles Artigues. Tendez l'oreille.
Celui qui a le plus à perdre.
Ah oui, si ça sort, c'est moi.
Ah, c'est les deux Gilles, j'ai envie de dire. Parce que lui, ce sera une victime. Si, parce qu'il sera victime,
Enfin, une fois que la chose sera sur la table...
Je vais pas pleurer, mais c'est...
Moi non plus.
C'est
moi non
plus. Oui, t'as raison. Je serai une victime collatérale. T'as raison.
Mais la première...
Mais c'est vrai, mais t'as raison. Hein.
Mais la première victime...
Il y a un truc obsessionnel.
La première victime, ce sera lui, parce que... Quelque part. Sauf que, une fois que les choses sont sur la table, il est mort. Même s'il est, enfin, même s'il est pour rien, il est mort. Sauf que, par ricochet, quand on va chercher qui a fait quoi...
Qui a fait quoi? À la rédaction de Mediapart, le journaliste Antoine Rougier enquête justement pour le savoir. Aidé par le témoignage de Gilles Rossary Langlais, il réussit à retracer tout le déroulé du complot. Et il est presque surpris par l'ampleur des preuves qu'il parvient à rassembler. Nos comploteurs amateurs ont laissé derrière eux d'innombrables traces de leurs méfaits. SMS, enregistrement, vidéo. Mais avant de publier ces révélations, il manque à notre confrère un dernier élément, le consentement de Gilles Artigue. Difficile évidemment de mettre sur la place publique une affaire si intime sans son aval. Forcément, on saura tout de ses frasques avec un escort boy, gay. Contacté au début de l'été 2022, Artigue fait savoir au journal qu'il est prêt à ce que l'affaire sorte. Dans le même temps, il rassemble son courage et révèle à sa famille la nature du secret qui le ronge depuis tant d'années. Eh bien, sa femme et ses enfants, loin de l'abandonner comme il le craignait, lui apportent un soutien sans faille. Et il va en avoir besoin pour affronter la tempête médiatico-judiciaire qui s'annonce. Le 26 août 2022, Mediapart publie son enquête, immédiatement reprise par tous les médias nationaux. Le lendemain, Gaël Perdriau, le maire, se rend à une commémoration prévue dans son agenda comme si de rien n'était. À la presse qui l'interroge, il livre une première réaction tout à son image.
Je souhaite bien entendu comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Et par ailleurs, je conteste fermement toute notion de chantage que vous avez commentée.
Dans les échanges de mails qui sont reproduits par Mediapart, vous évoquez une relation homosexuelle alors que le journaliste ne vous en parle pas. Et comment est-ce que vous savez alors qu'il s'agit d'une relation homosexuelle puisque le journaliste ne vous en parle pas ? Il vous parle simplement d'une vidéo compromettante, monsieur le maire.
Je ne ferai pas d'autres commentaires.
Mais comment est-ce que vous pouvez savoir que c'est avec un autre homme si vous n'aviez pas vu la vidéo ?
Mais je ne sais pas s'il s'agit d'un autre homme, je ne sais pas si c'est un gangbang ou une partouze. À ce stade, je ne connais pas. Ni les mœurs des personnes citées, ni ce qui s'est passé dans cette soirée-là.
Oui, mais dans les questions que vous posez Mediapart,
un gangbang ou une partouze. On reconnaît là le style de Gaël Perdriau, qui d'ailleurs n'a pas un mot pour la victime, Gilles Artigue, qui lui porte plainte, le 30 août, contre les quatre hommes à l'origine du complot, Rossary Langlais, Kéfi Jérôme, Perdriau et Gauthierry. Dans la foulée, le parquet de Lyon ouvre une enquête pour des faits de chantage aggravé, guet-apens en bande organisée et détournement de fonds publics. Oui, détournement de fonds publics, il ne manquait plus que ça. Mediapart révèle en effet que Gilles Rossary Langlais a été rémunéré à hauteur de 50 000 euros pour sa participation à la sextape via de l'argent public qui transitait par des associations locales. Dans une vidéo publiée sur le site du journal, l'intéressé explique le fonctionnement de cette fraude ourdie par le maire et son bras droit.
Ils m'ont expliqué, écoute, on va le faire passer en donnant des subventions à des associations et ils te donneront en échange, pour services rendus, mais bon, voilà. Alors bien sûr, il fallait absolument pas qu'on puisse dire si les impôts regardaient ou tout ça et tout. Donc officiellement, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Enfin, j'étais payé de manière somptuaire pour faire des tartes aux pommes lituaniennes ou pour faire, vous voyez ce que je veux dire.
C'était des prestations fictives, en fait, vous aviez habillé avec des fausses factures de l'argent qui atterrissait sur vos comptes.
Je faisais une facture, ils me faisaient le chèque et des chèques réguliers, ils n'allaient pas tout me donner d'un coup, c'est impossible, ça aurait alerté.
Cet été, j'ai pris un certain nombre de contacts. Le flot de calomnies tombe sur moi maintenant.
La stratégie de défense de Gaël Perdriau est de tout nier. Le 8 septembre, sur France Inter, il fustige, je le cite, un flot de calomnies qui aurait notamment pour objet de l'empêcher de se présenter à la présidence des Républicains. Mais sachant que les preuves dont dispose Mediapart sont accablantes, cette stratégie est-elle tenable ? Le 12 septembre, Le journal en ligne publie des extraits des enregistrements réalisés par Gilles Artigue lors de ses réunions avec le maire et son bras droit. Dans une bande datant de juillet 2018, on entend clairement Perdrio menacer son premier adjoint de diffuser la sextape dans des petits cercles avec parcimonie. Quant aux propos de Pierre Cottieri, il dépasse l'entendement.
Si vous faites ça, oui. L'ensemble des parents, des élèves qui sont dans la même classe que vos enfants, recevront une copie du film.
Mais c'est perdant-perdant pour tout le monde, je suis d'accord.
Et je pense, pense que vos enfants s'en remettront pas.
Mais allez-y, allez-y. Eh ben allez-y, parce que alors ça, je peux vous dire, moi j'ai rien fait d'illégal dans cette affaire. Bon.
Le 13 septembre, nos quatre comploteurs sont placés en garde à vue. À la sortie du commissariat, Gaël Perdrio appelle son épouse sans savoir qu'il est placé sur écoute. Le maire dit redouter que Mediapart balance encore des trucs. Je le cite. « J'ai l'impression de marcher sur un champ de mine et que cela peut péter n'importe où, n'importe quand », ajoute le maire aux abois. Et ce n'est pas fini. En novembre, une autre mine explose sous les pieds du maire. Mediapart révèle que lors d'une réunion, Gaël Perdrio est allé jusqu'à lancer une rumeur de pédophilie contre son rival politique Laurent Wauquiez. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes porte immédiatement plainte pour diffamation, fustigeant des rumeurs ignobles. Et il y a pire encore. Mediapart prouve que le clan à la tête de Saint-Étienne a envisagé de se lancer dans un autre complot, tout aussi pervers, qui aurait visé cette fois l'ancien maire de la ville, Michel Thiolière. Pierre Gauthieri et Gilles Rosary-Langlais imaginaient le compromettre en lui mettant dans les bras une prostituée mineure. Dans un enregistrement, on entend les deux hommes ricaner en évoquant la possibilité d'un suicide de l'élu, une fois l'affaire révélée.
Mais on est quand même d'accord, toi et moi, que quand ça va sortir, il faut qu'il se suicide. Hein, on est d'accord. On est d'accord aussi que oui, sauf que la gamine, elle va se retrouver dans, au milieu de la tourmente. Donc il faut qu'on ait quelqu'un. Moi, je veux dire, hein, je suis sans état d'âme, hein, je n'ai rien à foutre de la gamine. Ce que je veux, c'est que ça pète pas. Donc oui, il faut soit une gamine qui comprenne rien, soit.
La gamine, on peut aussi, ça dépend, c'est quoi, est-ce que c'est une française, c'est une roumaine, une bulgare, qu'on peut réexfiltrer ailleurs et plus personne n'entend parler d'elle.
Que restait-il aujourd'hui de tout ce machiavélisme ? Eh bien, les maîtres chanteurs sont un à un balayés par l'affaire. Tous sont aujourd'hui mis en examen. Samy Kéfi-Jérôme a démissionné de ses fonctions d'adjoint et tente aujourd'hui de refaire sa vie loin de Saint-Étienne en attendant le procès. Démis de ses fonctions, Pierre Gauthieri est brièvement incarcéré en juin 2023 pour ne pas avoir payé dans les temps sa caution. Quant à Gaël Perdrio, exclu des Républicains, il s'accroche, coûte que coûte, à son fauteuil de maire, faisant la sourde oreille face aux appels à démission qui s'accumulent. En attendant, les conseils municipaux virent au règlement de compte.
Nous allons donc avoir un conseil municipal présidé par un maire mis en examen pour chantage et placé sous statut de témoin assisté pour détournement de fonds publics par un dépositaire de l'autorité publique. Une première dans l'histoire de la ville dont on se serait bien passé.
Vous clamez que vous n'êtes mis en examen que pour chantage et que de ce fait, ce n'est pas très grave. La peine encourue est quand même de 7 ans de prison.
Cette affaire, pour sordide qu'elle soit, est avant tout la partie émergée d'un système politique au relent mafieux, fondé sur la menace, l'intimidation, l'humiliation, le mélange des genres particulièrement malsains et nauséabonds entre vie privée et engagement public, ce qui nous fait dire aujourd'hui que véritablement, il y a quelque chose de pourri au royaume de Perdrio.
Où qu'il aille désormais à Saint-Étienne, Gaël Perdrio est traité comme un pestiféré. Aux événements publics, des manifestants l'accueillent au cri de Perdrio démission. Il ne peut plus dîner en ville sans devoir sortir sous les colibés. Il ne peut plus aller au théâtre sans que les rangées se vident autour de lui. En octobre, Gilles Rosary-Langlais a même entamé une grève de la faim pour demander au Premier ministre, Michel Barnier, de révoquer Perdrio, avant d'être hospitalisé 2 jours après. Pour Lionel Boucher, l'un des opposants du maire, Gabriel Perdriau n'est pas prêt à renoncer à son indemnité. Il vendait des compteurs Linky chez EDF. Il touche maintenant 10 000 euros par mois. Il ira jusqu'au bout, déplore-t-il. Saint-Étienne et sa région du Forêt a longtemps été un important bassin minier. C'est à croire qu'il reste quelques mines du côté de la mairie. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, sextape à la mairie de Saint-Étienne, dont nous parlons avec notre invité Antoine Rouget. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au sein du pôle enquête de Mediapart et c'est vous qui avez révélé l'affaire. Alors, vous commencez à travailler sur cette enquête en 2022. Gilles Rossary Langlais a joué un rôle clé dans la révélation du complot et dans les révélations qu'il vous a accordées, on y reviendra. Mais avant lui, vous aviez déjà des informations vous indiquant la possibilité d'un chantage à la mairie de Saint-Étienne, enfin d'un truc pas net.
Voilà, le point de départ, c'est des indications qu'on peut avoir comme dans toutes les rédactions. Hein. D'abord des bouts d'informations qui nous laissent entendre qu'effectivement il y a un mode de fonctionnement qui est pas net au sein de cette municipalité. Mais ce sont d'abord des rumeurs, des éléments qu'on prend avec énormément de prudence, de précaution, et puis avant qu'on décide d'investir, y compris des ressources humaines pour enquêter sur un sujet, il faut pour nous qu'on défriche. Et je me souviens des premières interrogations que j'ai au moment où je cherche à en savoir plus sur la nature du complot qui a pu être ourdi au sein de la mairie. Et qui renforce en fait ma prudence, parce que ça fait partie de, quand même assez fréquemment des vieilles rumeurs politiques, y compris avec des relents homophobes. Hein. On voit très bien à quel point l'homophobie qui sous-tend cette affaire est présente, y compris dans les enregistrements que vous aviez diffusés tout à l'heure. Et donc j'y vais vraiment sur la pointe des pieds. Ouais. Et ce qui va accélérer les choses et me déterminer, c'est à partir du mois de mars 2022, quand après des premiers échanges avec Gilles Rossary Langlais, je parviens à le rencontrer et j'ai accès aux premières vidéos. Donc qui me permettent en fait de vraiment crédibiliser l'existence d'un complot et de savoir que ces vidéos existent, que c'est pas simplement un bruit qui a parcouru la ville et qui aurait pu être dénaturé plusieurs années plus tard. Et donc c'est vraiment ça qui va me faire partir sur cette enquête sans savoir initialement sur quoi je vais aboutir.
Vous avez interrogé également l'escorte gay, qui a été victime aussi finalement, hein, puisqu'il a été filmé à son insu.
On l'oublie beaucoup dans cette affaire.
Mais ça pose la question.
Et c'était un élément extrêmement important aussi dans mon enquête, parce que j'avais vraiment un enjeu qui était de comprendre ce qui s'était passé et de croiser les regards en fait. Et cette escorte, Théo, c'est son surnom, a été un témoin pour moi très important dans cette enquête. Quand j'ai pu le retrouver, il est à l'étranger désormais, et échanger avec lui, parce que c'est le seul des protagonistes de cette affaire qui n'a aucun intérêt à Saint-Étienne. Ouais. Et donc qui avait un regard totalement désintéressé politiquement sur ce qui a pu se passer, parce que sinon tous les autres protagonistes sont impliqués politiquement. Même la victime du chantage, Gilles Artigue, lui-même a des intérêts politiques à Saint-Étienne, et le regard de l'escorte était pour moi primordial, parce que sur cette petite séquence de la soirée du 5 janvier 2015, eh bien le récit qu'il en faisait était pour moi totalement désintéressé, y compris des conséquences que pouvait avoir la révélation de l'affaire.
Vous avez raison, il y a un contexte homophobe, parce qu'après tout, aller voir un escort gay, c'est pas un crime. Ça, presque, alors évidemment, sa famille ne le savait pas, ça c'est compliqué, mais on peut imaginer qu'il aurait pu dire « bah oui, j'ai vu un escort gay, et alors ?»
Ils ont précisément appuyé là où ça faisait mal.
Oui.
Et c'est d'ailleurs ça qui est très intéressant, y compris dans la manière dont ils l'ont formulé dans des enregistrements. C'est que le chantage, par exemple, financier, ils savaient que ça n'aurait pas du tout le même intérêt. La puissance de ce complot, c'est justement d'appuyer là où Gilles Artigue ne pouvait pas s'en extraire.
Oui.
Et c'est la force et à la fois la faiblesse, une fois que l'affaire a été révélée, c'est que en fait, personne n'avait intérêt de 2014 à 2022 à ce que cette affaire sorte y compris la victime. Aucun des protagonistes.
C'est pour ça que quand vous avez sollicité Gilles Artigue pour qu'il parle, vous avez dû vous dire ah « Non, il ne va pas parler, c'est pas gagné. » Et finalement, il a parlé.
Il y a eu un cheminement, d'ailleurs pour y revenir un peu plus précisément que dans le sujet. En fait, initialement, Gilles Artigue m'a interdit d'en parler.
Ouais,
d'abord, il a fallu que j'accède à lui directement. C'était pas quelque chose de simple, parce qu'en fait, à chaque fois, il me renvoyait, il avait quitté Saint-Étienne, donc il me renvoyait sur d'autres interlocuteurs de la vie politique stéphanoise, et il ne voulait pas me voir. Ça m'a obligé, le 3 juillet 2022, à lui écrire un message très explicite en disant « Écoutez, j'ai les vidéos ». Message qu'on peut imaginer d'une violence folle, en fait, pour quelqu'un que je ne connaissais pas. Et donc, il m'a répondu « Je prends un train demain et on se voit à Paris ». Il est arrivé, il était totalement blême. Quelqu'un de j'ai vu devant moi quelqu'un de totalement abattu,
dévasté.
Je me faisais pas cette image d'un ancien député, premier adjoint d'une ville importante de France, qui était avachi et qui m'a d'abord demandé quelles étaient les informations dont je disposais, et ensuite qui m'a dit je vous interdis d'en parler. Ma famille n'est pas au courant. Et ça a été tout l'objet, c'est pour ça que l'affaire est sortie le 26 août 2022, ça a été l'objet de tout l'été 2022 pour moi de le convaincre.
Bien sûr.
Donc de lui écrire, je lui ai écrit toutes les semaines. Pendant 5 semaines, ensuite, il a cessé de me répondre. Donc, à la rédaction, on a envisagé tous les cas de figure, y compris le fait que Gilles Artigue soit allé voir Gaël Perdriau pour le prévenir et peut-être monnayer quelque chose en échange de son silence. Et finalement, c'est autour du 20 août 2022, quand je lui ai dit « Écoutez, il y a aussi une autre affaire, une autre victime dans cette affaire, qui est l'escorte, qui, lui, est d'accord pour que cette affaire sorte. » Et donc, moi, je me trouvais dans un vrai conflit moral, en fait.
Mais entre... qu'auriez-vous fait, justement, on l'a bien dit dans le récit, qu'auriez-vous fait si jamais Artigue n'avait voulu parler? Qu'est-ce que vous faisiez de cette information?
C'était une hésitation, et moi, ça m'a empêché de dormir pendant pas J'imagine, mal de temps, ouais. De me dire, en fait, je suis tiraillé entre une obligation morale, en fait, qui est de ne pas prolonger finalement la souffrance de cette personne et de respecter sa volonté que ça ne se sache pas. Et en même temps, une obligation déontologique de journaliste d'avoir accès à ces informations qui sont évidemment d'intérêt public, qui illustrent la manière dont ils ont utilisé des fonds à la mairie de Saint-Étienne, dont est gouvernée cette collectivité territoriale, et qui me poussait en fait à révéler cette affaire. Et donc j'étais tiraillé, j'oscillais entre ces deux options, et fort heureusement, j'ai pas eu à faire le choix.
Oui, le oui de l'article vous a libéré.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Antoine Roger, cette affaire est le fruit de la rencontre de deux personnes, Pierre Gauthiéry et Gaël Perdriau, autrement dit le maire et son directeur de cabinet, c'est ça, qui se sont entretenus dans un délire de toute puissance. C'est ça qui les a fait courir et qui les a fait agir, cette toute puissance, cette mégalomanie.
Et ce sentiment d'impunité.
Surtout, oui.
Pendant des années, ce sont deux personnes qui ont pensé qu'on pouvait humilier, écraser un élu de leur propre majorité, premier adjoint, ancien député, sans que ça n'ait aucune espèce de conséquence, avec des propos tenus qui ont été fort heureusement enregistrés, sinon on ne les aurait jamais crus, en fait, ces propos-là, et qui ont tellement méprisé Gilles Artigue, mais aussi les autres protagonistes de l'affaire, qu'ils pensaient s'en sortir. Et ce qui est extrêmement frappant quand même dans cette affaire, c'est que si on regarde la chronologie, c'est que le complot est mis en œuvre et imaginé dès 2014, dès l'accession à la mairie. Ça veut dire que l'une des priorités politiques de Gaël Perdriau à ce moment-là, qui est un jeune élu, hein, aujourd'hui il n'a que 52 ans, mais à l'époque, il y a une dizaine d'années, c'est de contraindre et compromettre son premier adjoint. C'est l'un de ses premiers actes fondateurs à la mairie de Saint-Étienne.
C'est totalement prémédité.
Totalement. Tout à fait, totalement anticipé.
Alors, Gilles Rosary-Langlais, comment comprendre son rôle dans cette affaire, ses intentions? Parce que vous l'avez beaucoup vu pour votre enquête, le personnage a l'air un peu hors norme, hein, quand même.
Oui, il se décrit lui-même comme romanesque, atypique, cynique. Et ça fait partie, et on peut le voir dans des affaires extraordinaires comme ça, de personnages dont ont besoin aussi les responsables publics. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que aujourd'hui Gaël Perdriau, dans sa tentative de défense, tente de délégitimer Gilles Rossary-Langlais, de le décrédibiliser. Mais qui a fait appel au service de Gilles Rossary-Langlais ? C'est bien Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne. Il connaissait sa personnalité, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a choisi. C'est-à-dire que pour monter un plan aussi machiavélique, pour l'organiser, pour le mettre en œuvre, pour avoir les contacts, et il faut déjà ne pas avoir peur des conséquences, il faut une forme de savoir-faire, et c'était Gilles Rossary-Langlais qui disposait de ces compétences là. Donc ça fait partie, dans un aéropage et dans l'entourage d'un responsable public, du type de personne qui peut être utile, mais en même temps, qui par sa personnalité aussi devient extrêmement dangereuse, parce que ça a été à la fois la force de Gaël Perdriau de l'avoir dans son entourage à un moment, et ensuite son premier point de vulnérabilité.
Donc la justice avance maintenant avec plusieurs mises en examen, les différents protagonistes de l'affaire se mettent tous à accabler le maire, Gaël Perdriau. Alors Pierre Gauthiery, qui au départ le protégeait, hein, a dit au juge en charge de l'enquête, la décision du compromat sur Gilles Artigue revient au maire. Bref, il refuse de servir de fusible, c'est courage fuyant.
L'édifice municipal a complètement explosé en 2 ans, et c'est une vraie surprise. Pour ma part, je pensais sincèrement que les récits de cette histoire allaient se cristalliser entre 2 versions. Les protagonistes qui assumaient ce qui s'était passé, donc Gilles Rossary-Langlais comme étant l'un des opérateurs du piège, et Gilles Artigue comme étant une victime, et en face un clan municipal qui allait contester ces faits-là. Et en fait le récit et le feuilleton en fait qui a été provoqué par cette affaire, avec la diffusion de plusieurs enregistrements, etc., en fait a fait complètement exploser le bloc municipal, et tous les protagonistes aujourd'hui, hormis Gaël Perdriau, en fait, reconnaissent leur participation à la fois à l'opération et mettent en cause directement le maire de Saint-Étienne.
Et Gilles Artigue, il devient quoi ?
Eh bien, il a quitté Saint-Étienne.
Ouais.
Il ne met plus un pied au conseil municipal. Là aussi, il y avait une attente. En tout cas, moi, j'étais extrêmement intéressé de voir comment il allait se comporter dans cette affaire. Est-ce qu'il allait réussir à prendre le dessus ? Et en fait, ça reste aujourd'hui encore un événement beaucoup trop traumatisant pour lui, pour sa famille. Ses enfants sont encore scolarisés à Saint-Étienne, et surtout il y a la perspective d'un procès.
Alors justement, le calendrier judiciaire, on le connaît ?
L'enquête judiciaire est aujourd'hui clôturée, donc les prochaines étapes, ce seront les réquisitions d'abord du parquet de Lyon, ensuite des 3 juges d'instruction, l'ordonnance rendue par les 3 juges d'instruction, avec la perspective d'un procès l'année prochaine, et c'est ça qui fige aujourd'hui les choses, à la fois politiquement et aussi personnellement, parce que c'est une affaire qui a bousculé les intimes de beaucoup de familles.
Merci infiniment, Antoine Rouget de Mediapart.
Merci à vous.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui complot à la mairie de Saint-Étienne, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Mélissa et Troyes.